c'est vous qui dites.
L'émission d'information locale.
Présentée par la rédaction de Radio U Campus Morlaix. On a le plaisir de recevoir dans nos studios Guillaume Arson, qui est directeur de la mission locale du Pays de Morlaix. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, on le sait, hein, la situation économique et sociale des jeunes est très fragile actuellement. Pourtant, le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse de 13% des financements des missions locales. Hein. C'est pas seulement ciblé sur celle de Morlaix, évidemment. C'est pour ça que vendredi prochain, vendredi 14, à partir de 10h, vous organisez une rencontre qui se tiendra sur le parvis de la mairie de Morlaix. Il y aura des élus du territoire, des élus du conseil d'administration, des jeunes, des partenaires, des professionnels. Donc t'es avec nous au micro de Radio U pour échanger autour de ce mouvement de soutien des missions locales. Et puis on va se pencher un peu plus sur ce qui va se passer ici à Morlaix. Mais peut-être avant de rentrer, on va dire, dans le dur et de la problématique de ces baisses de financement, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle d'une mission locale? On va prendre l'exemple de celle que tu connais bien, celle du Pays de Morlaix. Je crois que vous accueillez chaque année près de 1700 jeunes de 16 à 25 ans.
Tout à fait. Donc on est je précise d'entrée de jeu qu'en fait le réseau, on est un réseau de missions locales en France. Tout le territoire métropolitain et outre-mer est couvert par une mission locale. Donc ça, c'est important de dire, si des jeunes écoutent, il n'y a pas de jeunes en France qui domicilient en France, qui peuvent dire « je n'ai pas de chance, j'habite d'une zone blanche, je ne suis pas bénéficiaire d'un accompagnement mission locale ». Tout jeune en France peut bénéficier de notre accompagnement. Après, on est donc 430 missions locales en France. Donc nous, Pays de Morlaix, 3 communautés de communes, 130 000 habitants, 59 communes couvertes pour notre part. Voilà. Et donc ça représente effectivement depuis quelques années 1700 jeunes à peu près qu'on a en cours d'accompagnement dans nos effectifs, dans nos statistiques. Après, donc on est ouvert exclusivement aux jeunes âgés de 16 à 25 ans jusqu'à 29 ans, 6 situations de handicap. Et autre petite précision importante, c'est jeunes sortis du système scolaire.
Okay.
Donc ça, c'est une précision que tout le monde n'a pas forcément bien en tête, mais on était encore ce matin donc en intervention dans les lycées scolaires, donc c'est pour nous, c'est tout nouveau, parce qu'effectivement les choses sont en train de bouger, mais à la date d'aujourd'hui, on accueille encore les jeunes. Un jeune qui est scolarisé, qui est au statut scolaire, il peut prendre 2-3 renseignements chez nous s'il veut, mais on ne peut pas démarrer un accompagnement avec lui. On attend qu'il soit sorti de sa scolarité par choix, par un petit peu contrainte forcée ou autre, mais sorti du système scolaire. Et après, donc l'accompagnement est 100% gratuit, là, je le dis toujours, parce que ça peut ne pas être évident pour certaines familles. Jamais une mission locale demandera un centime d'euro dans le service qui est proposé, quelle que soit la durée de l'accompagnement. On a des jeunes qui sont accompagnés 5-6 mois, et qui tracent leur route, et on en a d'autres qui sont là depuis 3, 4, 5 ans. Voilà, et les parcours est un peu plus compliqué, mais l'histoire de ce jeune ou de ces jeunes-là sont plus compliquées aussi. Voilà, donc il n'y a pas de standard. Quoi.
Et qu'est-ce qu'on appelle un accompagnement? Parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, ça passe par quoi? C'est quelque part une insertion vers le monde professionnel? C'est aider les jeunes à trouver leur voie aussi?
Les jeunes de 16-25 ans donc, déjà viennent dans une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas comme l'école qui est obligatoire. On vient à la mission locale si on en a l'envie et la motivation. Et à partir du premier rendez-vous qui est proposé aux jeunes, on prend l'ensemble de la situation du jeune à l'instant T, c'est-à-dire on prend le jeune tel qu'il est avec toutes ses difficultés, toutes ses attentes, toutes ses envies, et on essaye de baliser ça un petit peu dans le temps et donc d'aller au rythme du jeune. Donc un jeune qui est pressé, qui a envie que ça avance vite, et ben on va mettre des rendez-vous rapprochés, accélérés, avec plein de commandes entre deux rendez-vous, etc. Le jeune qui est dans une situation plus fragile, bon, on va respecter cette fragilité, on va l'entendre et on va dire écoute, allons-y tranquillement, voilà, il y a ça à faire d'abord, il y a ça à faire ensuite, etc. etc. Donc il n'y a pas de rythme, chaque jeune va à son rythme en fonction de son urgence, de ses envies, de ses priorités, etc.
On va rentrer un peu dans le dur, hein, puisqu'on le disait en introduction, baisse des financements prévus hein, sur le projet de loi de finances 2026. Donc, on rappelle que ce n'est pas encore voté, ce projet de loi de finances n'a pas encore été validé par les assemblées. Mais vous avez déjà été victime, j'ai envie de dire, d'une baisse en 2025 qui était d'un peu plus de 5%, il me semble, des subventions. Là, ce qui est prévu, c'est une baisse de 13%. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que prévoit ce projet de loi de finances 2026 et surtout pourquoi il vous inquiète ?
En fait, il nous inquiète déjà depuis... Alors, pas que le 2026, hein, parce que là, vous dites de 2025, mais on a déjà eu une baisse de financement en 2024. Donc, ça, en fait, si la baisse annoncée pour 2026 est maintenue, sur trois exercices consécutifs à suivre, l'État baisse sa subvention de fonctionnement pour les missions locales. Et donc, en fait, on pourrait, là, parlons au conditionnel, c'est-à-dire qu'on a encore l'espoir que notre mobilisation de vendredi puisse être entendue et peut-être faire changer un petit peu les choses, mais on pourrait perdre jusqu'à 25% de financement État sur 3 ans.
C'est voilà. Énorme.
Sachant qu'on est les missions locales, nous sommes des associations, donc toutes les missions locales en France ont le statut association de loi 1901, mais sont rattachées au service public de l'emploi, et donc avec France Travail, Cap Emploi, l'AFPA, etc. Et donc en fait, nous sommes... donc notre service est 100% gratuit pour les jeunes, voilà. Mmh. Donc nous, notre fonctionnement, il est 100% financé par des finances publiques. Donc l'État est notre financeur principal. Comme on est une association, on n'est pas monofinancement, on a des financements en région, des financements en département, des financements collectivités locales et d'autres petits appels à projets qui viennent graviter autour. Mais le financement structurant et socle, c'est l'État. Donc quand l'État baisse de 25%, possiblement 25% la subvention, sur un budget d'1,6 million, ça commence à faire une grosse baisse de financement et donc quid des emplois, puisqu'en fait, dans une mission locale, le poste principal des dépenses, c'est les salaires. On n'a pas 36 dépenses d'activité, on a uniquement des dépenses de fonctionnement de bâtiment, comme toute entreprise, électricité, eau, gaz, facture, EDF, Internet, etc. Et par contre, effectivement, le reste, c'est essentiellement la masse salariale. Donc si on nous coupe de façon drastique les finances comme ils sont en train de l'annoncer dans le plan de finances, le projet de loi de finances 2026, possiblement et même certainement, ça nous obligerait à revoir la volumétrie de l'effectif salarié. Quoi.
Ouais, on parle de au niveau national de plus de 1000 suppressions de postes. En tout cas, c'est ce qui a été envisagé, c'est ce qu'on a nous reçu sur le communiqué de presse. C'est énorme. Quelles conséquences ça aurait sur le terrain? Quelles conséquences ça pourrait avoir sur les jeunes?
Les conséquences, déjà pour chaque mission locale individuellement, c'est forcément des préoccupations de comment réorganiser la structure à partir de moyens financiers réduits. Donc ça, après, charge à chaque mission locale de regarder à l'intérieur de son organisation comment elle peut réorganiser les choses. Et par rapport aux jeunes qu'on accompagne, et là, tout territoire confondu, j'ai envie de dire, c'est la qualité de l'accompagnement qui va être remis en question. Parce qu'effectivement, là, je donne un chiffre qui ne va peut-être pas parler aux auditeurs, mais un conseiller qui accompagne les jeunes en mission locale aujourd'hui, il a possiblement ce que nous on appelle un portefeuille de jeunes, il a possiblement 100-110 jeunes en suivi actif en cours. Mmh. Demain, si on est moins de conseillers parce que par la force des choses, mais qu'on a le même nombre de jeunes à accompagner, un conseiller se retrouvera possiblement avec un portefeuille qui pourrait être de 140-150 jeunes en accompagnement. Et du coup, la disponibilité de ce conseiller pour les jeunes à accompagner se réduit, donc les temps d'entretien peuvent être revus à la baisse, voire expédiés un peu au lance-pierre, les dispositifs peut-être aussi avec moins de possibilités, moins de ce qu'on l'a pas, ça n'a pas été évoqué, mais le projet de loi de finances annonce aussi une baisse des allocations PACEA. Donc les allocations PACEA, c'est une enveloppe spécifique.
C'est le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
Alors j'ai envie de simplifier ça, c'est une contractualisation du jeune avec la mission locale et on se met d'accord sur des objectifs et sur un parcours d'accompagnement, mais surtout c'est un dispositif qui ouvre droit pour le jeune en fonction de sa précarité, de sa situation du moment. Ça permet au conseiller de débloquer des enveloppes ponctuelles. Ce n'est pas une rémunération, ce n'est pas une indemnisation, mais l'allocation PACEA est une enveloppe à la main du conseiller pour aider sur de l'aide alimentaire, sur de l'aide au permis, sur de l'aide au logement, sur de l'aide à acheter une veste parce qu'on a on prévoit des entretiens d'embauche et dans la filière envisagée, c'est quand même mieux de. Voilà. Et donc on peut aider. Si cette enveloppe-là est réduite de 10 millions d'euros à l'échelle nationale, comme ils sont en train de l'annoncer, bah forcément l'enveloppe pour Morlaix sera réduite d'autant. Et donc on aura encore moins de marge de manœuvre pour aider financièrement les jeunes. Qui sont dans des situations, on l'a un petit peu dit à l'introduction, mais les situations des jeunes qu'on accompagne sont depuis 5 ans de plus en plus identifiées comme difficiles.
Oui, on ne l'a pas dit, mais par exemple, un chiffre qui choque hein, généralement quand on le dit, c'est qu'un jeune sur 4 est en situation d'être sous le seuil de pauvreté.
Oui, ça c'est des statistiques qu'on entend souvent et c'est certainement une réalité. Alors après, je pourrais pas le dire là aujourd'hui tout de suite à l'échelle du pays de Morlaix, mais c'est sûr que les 1700 jeunes que nous accompagnons globalement présentent un niveau de difficulté alors divers. Chaque jeune n'a pas les mêmes difficultés. Il y a des jeunes qui sont bien soutenus sur le plan parental ou familial, d'autres un peu moins, d'autres sont un peu plus avancés dans leur parcours d'insertion et donc du coup ont déjà des expériences antérieures, etc. D'autres partent de zéro, donc sont sur les premières expériences sorties du système scolaire. Donc en fait, il n'y a pas de. Mais globalement, voilà, ce que les conseillers de la mission locale du pays de Morlaix font remonter là de plus en plus, c'est les complexités des situations. Et familiale, et financière, et de santé, parce qu'on là, on n'en parle pas beaucoup, mais la santé des jeunes se dégrade globalement. Mmh. Et donc, en fait, derrière ces problématiques de santé, bah, c'est des problématiques aussi d'insertion, c'est des problématiques d'accès à l'emploi, c'est des problématiques. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble. Quoi.
Ouais, et quand on parle de santé, c'est évidemment de manière générale. Hein. On englobe aussi la santé mentale.
Oui, c'est le grand sujet depuis 2 ans. On parle beaucoup, beaucoup de santé mentale, mais c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que quand on parle de jeunes qui ne vont pas bien, c'est aussi. Le cognitif, le mental est aussi à prendre en considération.
Oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez fait une simulation là, si malheureusement, j'ai envie de dire, ce projet de loi de finances va jusqu'au bout, mission locale du pays de Morlaix, ça voudrait dire quoi? Suppression de postes, etc.
Oui, clairement, c'est... Je l'ai déjà présenté et aux élus, aux administrateurs et aux salariés récemment. C'est pas compliqué. Sur la subvention 2025 de l'État, puisque là on parle de financement État, si on enlève 13% de notre subvention actuelle, c'est moins 85 000 euros. Moins 85 000 euros, ça se trouve pas dans les lignes de frais postaux et dans les lignes de dépenses de télécom. C'est pas là qu'on va récupérer cette somme-là. Et pour retrouver un équilibre financier avec moins 85 000, nous, on n'a pas 36 lignes de comptable de charges, hormis la masse salariale. Quoi. Donc oui, ça voudrait dire s'apprêter ou se préparer à réduire l'effectif. On l'a déjà fait en 2023-2024. On est passé de 31 salariés à 27. Mais là, possiblement, on pourrait redescendre à 25. Voilà, ça, je ne sais pas.
Ouais, ça voudrait dire 2, peut-être 3 salariés en moins. Ouais, c'est compliqué.
Possiblement 2 équivalents temps plein, on va dire ça comme ça. Donc là, aujourd'hui, forcément, naît l'inquiétude dans la tête des salariés, même si on ne se le dit pas forcément ouvertement encore aujourd'hui. Mais j'imagine très bien que chaque salarié, individuellement, peut se poser ces questions en se disant « Mais si demain, il y a des réductions, qui ?» Voilà, quel poste et derrière, au-delà de ça, c'est au-delà des personnes, c'est quelle réorganisation derrière. Parce qu'effectivement, si on enlève 2 ETP, ces équivalents temps plein, ils vont être compensés par qui? Voilà. Et donc après, c'est les conditions de travail qui peuvent aussi être impactées. Donc ça peut être de la dégradation des conditions de travail aussi. Petit à petit, et donc c'est pas satisfaisant, et donc aucune mission locale ne se satisfait aujourd'hui en France de ces annonces de baisse de subventions.
Ouais, dégradation des conditions de travail pour les salariés, et puis on l'a dit mais on le redit, évidemment dégradation des conditions d'accompagnement pour les jeunes bénéficiaires, où ça va être aussi plus compliqué pour eux.
Et ce qui est d'autant plus, d'autant plus paradoxal ou contradictoire, c'est qu'on nous annonce ces baisses de financement dans un même calendrier où l'État et notre réseau national nous a engagés dans une démarche de labellisation. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un gros boulot en amont. pour obtenir cette labellisation à partir de 35 critères. Enfin, voilà, je la fais court, mais on vient d'avoir cette semaine la confirmation écrite de notre réseau national que ça y est, nous sommes une mission locale labellisée. Donc la mission locale du Pays de Morlaix a satisfait aux 35 critères auxquels il faut qu'on amène une réponse satisfaisante, un service satisfaisant. Donc ça y est, on est officiellement labellisé et donc on se réjouit d'une labellisation, gage de qualité, et dans le même temps, on nous annonce des coupes franches possibles qui viendraient nuire à cette qualité d'accompagnement.
Ouais, c'est comme si les injonctions étaient très contradictoires. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes sur l'emploi des jeunes, on l'a dit, sur leur situation économique et sociale. Et d'un autre côté, mais c'est ce que vous dites dans votre communiqué de presse, en tout cas au niveau national, finalement vous parlez d'un espèce de désinvestissement de l'État dans l'insertion des jeunes.
Bah, je pense que c'est comme ça que c'est lu et reçu dans le contexte actuel, c'est comme ça qu'on l'entend. Après, j'ose espérer qu'il y a plusieurs élus qui se préoccupent de l'insertion sociale professionnelle des jeunes aujourd'hui et que ça reste un sujet. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'impression, et là je vais parler pour moi, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que le gouvernement est tellement préoccupé par cette recherche de milliards d'euros d'économie à faire que par tous les canaux, par tous les moyens possibles, là où on peut imaginer des coupes, on va imaginer des coupes sans vraiment savoir quelles conséquences ça va avoir. Si on supprime telle ligne budgétaire, c'est quoi la répercussion derrière? Et je pense que, possiblement, quand on annonce 13% comme ça dans ce projet de loi de finances, moins 13%, peut-être que tous ces élus n'ont pas mesuré les conséquences immédiates ou directes, d'où l'intérêt de les faire entendre vendredi sur la place de Morlaix, par la manifestation à Paris le 18 novembre prévue à l'Assemblée nationale, etc. Quoi.
Est-ce que de ton expérience de terrain, tu pourrais dire que finalement, évidemment, il ne faut pas une baisse des financements, parce que déjà, c'est compliqué d'assurer votre boulot dans des conditions correctes, mais est-ce que finalement, faudrait pas plutôt avoir une hausse des financements publics pour justement améliorer l'insertion des jeunes, l'emploi, etc.
Moi, je préconiserais, si c'était possible, si je pouvais être entendu dans un monde idéal,
ouais, bien sûr.
Voilà, dans un monde idéal, si je pouvais être entendu, je préconiserais une stabilité, et surtout une stabilité des financements, parce que là, ce qui est déstabilisant, c'est en 2023, quand le plan de relance de l'État a été annoncé avec la crise sanitaire, etc. Donc, il y a eu le slogan le quoi qu'il en coûte, il y a eu le slogan on ne laissera aucun jeune sur le bord de la route. Tout ça, on l'a entendu dans les années 2021-2022. Le réseau des missions locales a bénéficié de financements État exceptionnels qu'on a obtenus sans même, je vais le dire franchement, sans même les demander. C'est-à-dire que les missions locales ont été bénéficiaires de financements supplémentaires avec une commande de ne laisser aucun jeune sur le bas-côté, etc. Allez-y. Donc pour aller répondre à cette attente, on a embauché aussi, avec les moyens qu'on nous donnait supplémentaires, on a créé des postes, on a embauché des conseillers supplémentaires. On n'a pas parlé du contrat d'engagement jeune, mais le contrat d'engagement jeune, c'est un dispositif spécifique, mission locale et France Travail avec les jeunes. On est passé de 120, donc chaque mission locale, chaque année, doit faire un objectif quantitatif. On est passé de 120 jeunes à faire rentrer dans ce dispositif à 200 jeunes, voire même 240, je crois, en 2023. Et là, on nous redescend nos objectifs, etc., pour faire des économies. Mais en fait, c'est là qu'il n'y a pas de constance, en fait. Alors que nous, en mission locale, on nous aurait laissé à 150, 160 entrées contrat d'engagement jeune depuis le début. On aurait été ça aurait été un volume cohérent par rapport au territoire du Pays de Morlaix. On n'aurait pas été en manque mais on n'aurait pas cet effet yo-yo. C'est-à-dire, voilà, il y a des financements, il y a des objectifs revus à la hausse. Et du jour au lendemain, on nous retire les objectifs et les financements. Mais sauf qu'on a toujours les salariés en poste. En fait, eux, ils sont embauchés, ils sont là. Donc, on ne peut pas jouer au yo-yo avec la masse salariale, là où, avec une subvention d'une année sur l'autre, on peut la baisser, l'augmenter, etc. Et c'est là qu'il y a un décalage et dans les calendriers. En 2024, quand on nous a annoncé nos baisses de financement 2024 au mois de mai 2024, donc il y a déjà 5 mois de l'année qui sont passés. Et donc, il nous reste 7 mois pour réajuster le fonctionnement. Bah, c'est très déstabilisant, ça amène un peu de préoccupation pour tout le monde, voire peut-être même du stress pour certains qui sont peut-être plus anxieux que d'autres, etc. Ils ne l'ont peut-être pas verbalisé, mais en tout cas, il y a toutes ces incertitudes-là. Et du coup, ça nuit à la qualité de service. On veut vanter la qualité de l'offre de service des missions locales, de la qualité de l'accompagnement proposé aux jeunes. Mais pour ça, il faut que les conseillers soient aussi bien dans leur tête, dans leur corps, pour être disponibles pour les jeunes qu'ils accompagnent. Si l'esprit est encombré par plein de parasites de cet ordre, on se retrouve à faire un travail de moins bonne qualité. Quoi.
Bien sûr. Et de toute façon, faire un travail de bonne qualité quand il y a autant de revirements de situation budgétaire, etc., c'est quand même très compliqué. Moi, je voulais te demander, il y a eu aucune concertation, vous n'avez jamais été prévenu en amont, vous avez découvert en lisant le projet de loi de finances que paf, il y avait une coupe dans les subventions.
Alors, une coupe comme ça, non, ça c'est sûr, on n'a pas été prévenu d'une éventuelle coupe de cet ordre-là, de moins 13% d'un coup. Par contre, ça fait déjà 2 ans qu'on a des baisses de financement État, ça fait 2 ans qu'on, si on suit un peu l'actualité, ça fait 2 ans qu'on voit bien que le gouvernement est un petit peu chahuté et peine à trouver une trajectoire donc pour avancer. Donc forcément, voyant ça, on se dit quid des financements missions locales ? Est-ce qu'ils vont être impactés l'année prochaine, dans 2 ans donc, nous, on s'attendait objectivement sur le réseau breton. Je vais parler que du réseau breton. Plusieurs directeurs partaient sur... avant les annonces là, du PLF, partait sur une annonce pessimiste, enfin sur une projection pessimiste de plutôt moins 5% comme l'an dernier. En gros, on continue la descente dans une certaine régularité de diminution. Là, le moins 13 vient plus que doubler. Donc là, c'est brutal, quoi.
Et donc, vous demandez évidemment le maintien des financements à minima comme ceux de 2025. On en a parlé, le maintien du budget PACEA. La reconduction du contrat d'engagement jeune, avec l'objectif au niveau national d'avoir 200 000 jeunes engagés dans ce CEJ, mais aussi la mise en place d'un fonds d'urgence par l'État pour les missions locales en difficulté financière, parce qu'on ne l'a pas assez dit, mais il y en a beaucoup en fait des missions locales qui sont en difficulté financière aujourd'hui.
Alors je ne saurais pas dire le nombre de missions locales qui sont en difficulté financière, mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent le milieu associatif, et là, je ne parle pas que des missions locales, je parle des centres sociaux, des MJC, de tout le réseau associatif qui aujourd'hui souffre aussi de difficultés de financement. En fait, on a un fonctionnement, les associations, où tous les débuts d'année civile... Alors, je parle surtout des associations qui ont des salariés.
Ouais,
je parle
Je
parle surtout de ces structures-là. Mais on le sait tous les débuts d'année civile, jusqu'en mars-avril, il faut être en capacité d'être autonome financièrement parce que les subventions de l'année N ne vont être versées que dans le meilleur des cas à partir d'avril, mai, voire juin. Ça, c'est comme ça. Les collectivités votent leur budget en mars. Le temps que l'ordonnancement soit fait, que la mise en paiement soit faite, la subvention arrive en avril, etc. Et ça fait que les associations doivent être autonomes financièrement tous les débuts d'année civile. Et pour être autonomes, elles piochent sur leurs réserves financières. Voilà. Et donc, on dit toujours, enfin souvent, on l'entend souvent, le 3 mois d'autofinancement, être autonome 3 mois. Donc ça, c'est des calculs qui se font à partir des éléments comptables de chaque structure, mais nombreuses sont les structures associatives aujourd'hui qui n'ont pas ces 3 mois d'autofinancement. Et c'est le cas de la mission locale de Morlaix, on est à 1,8 mois, donc on n'est pas à 3 mois. Donc ça veut dire que techniquement, 1,8 mois, ça veut dire que fin février 2026, les réserves de la mission locale sont à sec puisqu'on les a utilisés pour financer janvier, février. Et les subventions annoncées de 2026 ne sont toujours pas arrivées. Et donc, en fait, quid de comment on finance le fonctionnement de la structure en mars, peut-être même en début avril. Et c'est ça la difficulté. Et donc, en fait, les structures, les missions locales dont on fait partie, missions locales de Morlaix, en situation fragile financièrement, donc on est plus exposé encore que d'autres missions locales qui auraient encore peut-être un matelas de sécurité qui leur permettent encore de voir venir. Et donc le réseau national demande à l'État la possibilité d'avoir une enveloppe pour venir abonder ponctuellement, c'est des aides ponctuelles, mais permettre aux associations les plus fragiles de passer l'épisode compliqué de mars-avril, retrouver ses financements N et continuer.
Ouais, parce que aujourd'hui, sans ce fonds-là, on fait comment? Vous passez par un prêt auprès d'une banque? Ça se passe comment ou...
Après, voilà, il y a deux, trois lois dont je ne suis pas l'expert aujourd'hui. Heureusement, dans ma vie de directeur, je n'ai pas eu souvent le besoin d'y recourir, mais loi d'AI, etc. Mais après, effectivement, oui, c'est allô la banque, est-ce que vous nous autorisez avec... On peut vous présenter un justificatif d'engagement des collectivités, de tels financeurs. On sait que la subvention va être acté, etc. Mais en termes de timing, on n'y est pas. Donc une banque peut accorder une avance, etc. C'est des choses qui se pratiquent, tout à fait.
Avec des taux d'intérêt, évidemment.
Alors, avec, oui, logiquement, venant d'une banque, oui, ça peut. Mais en fait, c'est surtout ce qui est désagréable, c'est qu'en fait, nos métiers dans les structures associatives, on n'est pas des experts de la finance, on n'est pas oui. Voilà, et c'est pas notre ADN de devoir s'épuiser à gérer ça. Et si les subventions étaient suffisantes et versées dans un calendrier resserré en début d'année, on serait beaucoup plus serein parce qu'on saurait que dès mars les subventions arrivent et que voilà. Je donne un exemple, c'est anecdotique, mais on bénéficie d'un financement FSE dans la mission locale. Le FSE nous valide le projet, mais les paiements, et on le sait, c'est dans le meilleur des cas, c'est 2 ans après. C'est-à-dire qu'il faut avancer le coût du projet au moins sur 2 ans. On sait que ça va rentrer, mais on a un décalage de paiement de 2 ans. C'est énorme.
C'est énorme, et on revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est votre cœur de métier qui finalement est touché parce que il y a toute cette ce psychologie qui fait que on pense au financement, on a peur pour son poste, etc. Et donc forcément on est aussi moins bien dans son boulot d'accompagnement.
Bah, toute l'énergie qu'on consacre à toutes ces préoccupations-là, on les consacre pas à notre cœur de métier du quotidien. Là, par exemple, la manifestation qu'on prévoit vendredi, puisque c'est un mouvement national qui se décline par région, puis en local, forcément, on s'inscrit et on est solidaire de cette démarche du réseau Mission Locale. Mais là, on passe une bonne partie de la semaine. Juste avant de venir vous voir, j'étais au magasin pour faire des agrandissements, pour prévoir 2-3 affiches d'explication de notre mouvement et du pourquoi on est là sur la place. Donc, une partie de notre temps de travail cette semaine va être consacrée à la préparation de cette manifestation de vendredi. Or, on a d'autres choses à faire. En fait, on peut très bien... On n'est pas en manque d'activité dans l'agenda. Hein. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va s'imposer là, dans l'urgence. Mais si la situation était plus confortablement calée, les choses seraient beaucoup plus sereines pour tout le monde. Et en même temps, ce qui me gêne, c'est de dire ça aujourd'hui pour le réseau des missions locales, sachant que tous les réseaux associatifs sont impactés. Donc, dans mes propos, je pense aussi à tout le médico-social, je pense aux centres sociaux, je pense au MJC, je pense à plein de structures, à plein d'autres réseaux qui sont très incertains aussi sur leur financement. Alors, ils n'ont peut-être pas les mêmes annonces, ils n'ont peut-être pas les mêmes pourcentages annoncés, mais en tout cas, je sais que le milieu associatif aujourd'hui est fort malmené.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire là de notre côté, auditeurs, auditrices qui nous écoutent, venir vous soutenir déjà vendredi, on le redit, c'est sur le parvis de la mairie, rendez-vous 10h, et puis essayer de faire du bruit.
Alors du bruit, faire volume déjà, parce que voilà, je ne suis pas sûr que ce soit en criant le plus fort qu'on soit le mieux entendu, mais déjà de montrer qu'on est là, de faire nombre déjà, ça peut être bien, si on peut arriver à mobiliser pas mal de jeunes. Ça peut être aussi un message aussi, parce que c'est aussi, là on parle des salariés, mais c'est aussi
les
jeunes et leur accompagnement aujourd'hui et demain. Donc si on peut arriver à mobiliser là dans un laps de temps court quelques jeunes, les élus, alors beaucoup d'élus sont solidaires de notre locaux, je parle des élus locaux, beaucoup d'élus locaux soutiennent notre démarche et se préoccupent de notre situation, parce que les élus, ils ont bien en tête la nécessité d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Donc là-dessus, on est bien soutenu de ce point de vue-là. Par contre, effectivement, comment ces élus locaux, nous, on peut faire entendre notre voix plus haut? Donc effectivement, là, l'idée, c'est que cette journée du 14 se décline partout en région. Donc dans toutes les... Il y a 17 missions locales en Bretagne. Donc déjà, dans les 17 missions locales bretonnes, le 14 novembre, les missions locales seront fermées au public. Et on fait la même chose dans toutes les missions locales de France, normalement. Chaque mission locale ferme entre le 12 et le 14 une journée, mobilise localement jeunes, élus, partenaires, etc. autour de... Et l'idée, c'est de faire remonter ça médiatiquement. jusqu'au national, le tout avec une autre manifestation prévue le 18, donc là c'est à Paris devant l'Assemblée nationale, le 18 à 17h, il y a une manifestation du réseau national des missions locales, donc là je ne sais pas combien de missions locales pourront être à Paris et être représentées, mais je pense qu'il y en aura un certain nombre quand même, et de là, bah, on a des députés dans nos conseils d'administration, pour certains, on est soutenu par nos députés locaux. Effectivement, charge aussi à ces députés de défendre ces lignes budgétaires-là dans les votes du budget là, qui arrivent, là, puisque le vote, c'est le 19 novembre.
Ouais, voilà. Ça arrive vite. Voilà. Eh ben, on souhaite, Guillaume Marçon, que vous soyez écouté, entendu, surtout, sur vos revendications. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Est-ce que tu aurais un dernier mot ?
Merci déjà de nous permettre cette fenêtre d'expression en local, dans une association. On ne peut que se sentir soutenu aussi, et réciproquement. Donc, merci encore.
Merci beaucoup.
Retrouvez vos podcasts préférés sur toutes les plateformes. C'est du replay.